Chapitre 12. Charcot n'avait pas pu s'empêcher de quitter son bureau l'histoire d'une heure ou deux. Respirer l'air du dehors, avancer dans les pas de ses hommes. Son ADN, c'était le pavé, la pluie, le froid, pas la feutrine ni l'odeur du bois trop neuf. Accompagné de la technicienne Laetitia Chapelier, il s'est égaré rue Leblanc aux abords du parc André Citroën et du port de Javel dans le 15e arrondissement. Il possédait deux lampes torches, mais un seul parapluie qu'en homme galant, il lui avait tendu. Il longeait le quai. Chapelier était branché sur le compte Facebook public de Flowiz. Une application graphique affichait, pour ses 300 amis et avec un détail extraordinaire, le parcours du footing débuté à 18h30 pile, dimanche 5 novembre, parc Rodin à Issy-les-Moulineaux. Il s'interrompait dans ce parc à 19h08. Un trajet commenté en direct par des dizaines de gens, avec des « j'aime », des « allez, on est avec toi », des « plus que 5 kilomètres ». Ce qui avait incité quelques internautes à appeler différents commissariats. Il avait fallu du temps pour établir les recoupements et faire remonter l'info au 36. C'était la dernière photo publiée automatiquement durant son footing, dimanche à 19h07 et 43 secondes. La pluie et l'obscurité avaient dégradé la qualité du cliché. Mais on devinait, dans son angle droit, parmi les buissons, une espèce de masque blanc au large sourire et à la moustache noire. Un masque de Guy Fawkes, celui utilisé par les Anonymous. Sans aucun doute, le spectre de l'ange du futur qui, tapi dans l'ombre, avait dû se jeter sur sa proie et déconnecter son téléphone avant la publication de la prochaine photo. Un travail millimétré. On ne connaissait pour l'instant rien de Flowiz, hormis qu'elle avait foulé ce sol 3 jours plus tôt et était à présent enfermée dans un réservoir d'eau au fond d'une pièce au mur de béton. On ignorait sa véritable identité dans la vraie vie et son adresse. Elle habitait sans doute à Issy-les-Moulineaux, mais où précisément? Là où se cache le masque se trouve le singe. L'ange du futur leur demandait à l'évidence de se rendre sur les lieux du kidnapping, là où ils s'étaient embusqués ce soir-là. Aussi, Laetitia Chapelier longeait-elle le fleuve. « On est pile dans ses pas. Elle est passée ici dimanche. »
« Tout ça m'échappe. Comment on peut mettre sa vie à nu, tout publier, même le trajet de ses footings en direct? Et après, on s'étonne que ce genre de choses arrive. Les parents devraient protéger leur môme de ça. »
Les protéger de ça? Et comment? C'est vers ce monde-là que nous courons, malheureusement. Une barbarie technologique comme une autre, et contre laquelle on ne peut rien. Vous, comme moi, nous sommes déjà dans le passé. Quand on garde en mémoire les dates du règne de Louis XIV, nos jeunes, eux, apprennent à accéder à l'information sur Internet. Leur cerveau se restructure en conséquence. Tout bouge trop vite, et soyez sûr que l'on connaît moins le futur que nos propres enfants. Ils ont une longueur d'avance, à nous de nous adapter. Le monde à l'envers, songea Charcot. Il détailla Chapelier du coin de l'œil. Elle était presque aussi grande que lui, droite dans son imperméable. Pas d'alliance. Elle l'intriguait. Il l'imaginait sans homme, mais avec un enfant, peut-être deux. Le commandant l'avait croisé à plusieurs reprises dans les locaux. Une femme pareille se remarquait de loin. Mais il ne connaissait rien d'elle.
Je me demande ce qui peut pousser des civils à venir travailler au sein des unités de police. Vous êtes une experte. N'importe quelle boîte doit vous ouvrir les bras et vous proposer de gagner 3 fois plus. Alors pourquoi?
Sous le parapluie, la lueur de l'écran se reflétait dans ses yeux, pareil à 2 grands lacs sombres. Charcot regretta instantanément d'être tombé sous le charme. « Mon père était gendarme. Un cancer l'a emporté quand j'avais 20 ans. Il voulait que je suive ses traces, mais j'ai toujours détesté la violence. Les armes à feu, le sang, ce n'est pas pour moi. Alors je suppose que travailler dans les bureaux et vous aider, c'est une espèce de compromis. Voilà 3 ans que j'ai quitté une entreprise de télécom pour vous rejoindre. » Tout en écoutant, Charcot lorgnait partout autour de lui. Les péniches, les rails du RER, les immeubles en arrière-plan. Leur homme était peut-être tapi dans le décor en train de les surveiller. Laetitia désigna une statue sur leur gauche. « On tourne là et on entre dans le parc. »«
Vous le voyez comment, l'ange ? C'est votre domaine tout ça, Facebook et compagnie. Quel profil se dégage selon vous ?»«
Comme la plupart des hackers, il est rongé par son anonymat. Œuvrer dans l'ombre les tourmente. Ils aimeraient hurler au monde entier qui ils sont, montrer à quel point ils sont géniaux, mais ils ne peuvent pas. L'ange, lui, a pris le risque de se livrer. En se donnant un nom, en envoyant une lettre manuscrite, en nous provoquant ouvertement. Il y a la notion de jeu, de défi. C'est un joueur, oui. Souvent, les énergumènes de sa trempe ont des idées politiques radicales. Anarchistes, ultralibéralistes, libertariens, l'État est leur ennemi numéro un.
Donc nous ?
Oui, voilà pourquoi ils s'adressent directement à la police. Ces individus-là ne descendent pas dans les rues, ne cassent pas de vitrines. Ils agissent derrière leurs écrans, anonymes et beaucoup plus dangereux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2011 est apparu sur le Darknet Silk Road, un supermarché de la drogue qui générait des millions de dollars pour son créateur, Russell Bricht, un jeune Texan, un Pablo Escobar du numérique. Charcot acquiesça. Ross avait plaqué une brillante carrière d'entrepreneur pour créer son projet dément, changer le monde, devenir quelqu'un. Mais comment devenir quelqu'un quand on doit rester anonyme et qu'on est recherché par le FBI ? Alors Ulbricht, rongé par son besoin de reconnaissance, s'est donné un avatar. Il a écrit un jour sur Internet « Je suis Silk Road, le marché, la personne, l'entreprise, tout. J'ai besoin d'un nom. Mon nom est Dread Pirate Roberts, en référence à The Princess Bride, un film de 1987 dont le personnage Dread Pirate Roberts est emblématique de la culture geek. » À partir du moment où il a livré ce pseudonyme, ça a été le commencement de la fin pour lui. Il n'arrivait plus à garder ses secrets, il devenait paranoïaque et le FBI a fini par le coincer. Elle prit un chemin sur la droite. L'ange s'inscrit dans ce genre de démarche en plus violente, en plus suicidaire, si je puis dire. Ses idées sont plus extrêmes, plus idéologiques. Il n'est pas question d'argent, tout au moins pour l'instant. Il en veut à la technologie et ce vers quoi l'homme va. Il sait qu'il se fera coincer, mais ça ne compte pas pour lui. Ce qui compte, c'est que ses idées se répandent et que sa colère contre notre monde vérolé explose. Une colère qui gronde en lui depuis des mois, peut-être des années, qu'il a dû étaler dans son fameux manifeste. Il faut s'attendre à découvrir un pavé de plusieurs centaines, voire de milliers de pages et bourré de haine. En ce sens, il est hyper dangereux, et soyez sûr qu'il fera tout pour atteindre ses objectifs. » Charcot écoutait sans mot dire. L'ange n'était pas le premier. Una Bomber, prof de maths, avait terrifié les États-Unis dans les années 70 avec des bombes artisanales, jugeant que la société industrielle et technologique s'éloignait trop de la liberté humaine. Ces bombes étaient empaquetées et estampillées des initiales FC, Fuck Computers. Puis il songea à Breivik, ce Norvégien islamophobe ultranationaliste qui tua 77 personnes et en blessa plus de 150 en 2011 avant qu'on ne découvre son manifeste de plus de 1000 pages sur Internet. Seul l'extrémisme de leurs idées les différenciait du reste de la masse. Ils étaient intégrés, intelligents, issus de la classe moyenne, ne décapitaient pas d'animaux et ne présentaient pas de cicatrices sur le visage. Ils étaient normaux, ordinaires et donc quasi indétectables. La sonnerie de son téléphone le sortit de ses pensées. Un appel d'Audra. Elle lui fit un rapide bilan et lui demanda l'autorisation de monter jusqu'à Goussainville. Le flic réfléchit. Elle lui parlait d'intuition, de camionnette avec vitres teintées. Si elle disait vrai, ça pouvait donner un sacré coup de fouet à l'enquête.
« Très bien. mais un passage rapide et sans le moindre risque. Tu roules, t'observes vite fait et tu tires, ok? Pas d'arrêt, pas de sortie de ton véhicule. Si tu n'y vois rien de suspect, tu reviens. On gérera plus tard.
Compris, commandant.
Charcot raccrocha. Il sentait chez la jeune femme la fougue de ses jeunes années. Lui aussi, il aurait foncé, parce que quand l'enquête vous prenait à la gorge, elle se resserrait autour de vous et vous entraînait dans ses obscurs replis. Laetitia Chapelier avait continué, bifurqué vers la droite pour pénétrer dans le parc. L'endroit était désert, plongé dans l'obscurité tenace, un trou d'encre au cœur de la ville lumière. Charcot répondit à un second appel, le légiste cette fois, et resta abasourdi. Il revint vers sa conductrice après 5 bonnes minutes sous le coup des révélations. Elle l'attendait sous un arbre. Charcot plongea dans la profondeur de ses iris noirs que ses migraines nimbaient de reflets humides.
« Vous n'avez pas l'air bien. »«
Ça va aller. Je subis ces martèlements depuis mes 15 ans. J'ai l'habitude. »«
Bon. J'ai eu des nouvelles de l'homme qui s'est écroulé devant le 36. Je sais pourquoi il est mort. Vous n'allez jamais me croire. »